France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Stanislas de Barbérac. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 1984. Et je suis ténor.
Est-ce que le travail, la discipline aussi, c'est un principe d'accomplissement ?
Ouais, parce qu'on est nombreux quand même. Hein, pour la plupart des gens, effectivement, c'est une niche, on a l'impression que c'est un microcosme, etc. Mais de l'intérieur, on sait qu'il y a des millions de gens qui chantent, il y a des millions de chanteurs. Bon, pour les ténors, c'est un peu plus facile, on est un peu moins, donc il y a forcément plus d'offres de travail, mais c'est vrai qu'une soprano qui se lance aujourd'hui, après les périodes de Covid, qui sort d'une conservatoire, qui doit trouver un agent, alors qu'il y en a déjà 500 qui travaillent plus ou moins, enfin, je veux dire, faut avoir la foi, quoi, il faut avoir confiance en soi pour y aller. Et chapeau ceux qui le font. Vraiment chapeau, parce qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver un agent, c'est dur d'ouvrir les portes des théâtres, c'est dur de trouver du travail, parce qu'il y a moins en moins de spectacles. Donc, il faut s'aimer, quoi. Il faut se dire, j'ai une chance, j'y vais. Et les gens qui font ça, chapeau. Parce que moi, dès rien qu'à ma génération, quand même, il y a 2008, hein, c'est pas, il n'y a pas si loin, c'était quand même plus facile de rentrer dans le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'il faut être rigoureux, il faut travailler.
Vous êtes quel genre de travailleur, vous ?
C'est-à-dire.
Est-ce que vous êtes perfectionniste ? Est-ce que vous êtes acharné ?
Acharné, non, mais je suis perfectionniste, ouais. Je pense apprendre assez vite. Bon, ça dépend évidemment du répertoire, etc. J'ai mis plus de temps à apprendre Péléas qu'à apprendre Tamino, ça c'est sûr, mais j'aime bien que les choses soient bien faites, j'aime bien que les choses soient bien préparées en amont. Parfois, je me fais surprendre par mon planning aussi, donc je suis à la bourre, et ça j'aime pas, parce que j'aurais dû ouvrir ma partition plus tôt, ou pas me dire, comme j'apprends assez vite, j'ai 3 semaines devant avant d'arriver en musical, donc j'aurai assez le temps. Voilà, après l'expérience, et puis la maturité, et puis on commence à se connaître, donc il faut plus ou moins anticiper les choses, mais...
Et vous travaillez au piano, vous annotez...
Ouais, piano, alors je suis pas pianiste, hein, mais je travaille beaucoup au piano, j'écoute peu. Quand je travaille, je préfère tout découvrir moi-même d'abord, le mettre dans ma voix petit à petit et après écouter. J'écoute quand je suis à la bourre, en fait, parce que ça me permet de travailler mon par cœur. Ma femme est pianiste, donc elle m'aide pas mal, ça c'est sûr. Et voilà.
Elle est pianiste amateur.
Elle peut pas tout déchiffrer comme ça, mais il y a quand même pas mal de choses où elle m'aide, du Gluck, du Mozart, période classique, tout ça, elle peut quand même vachement m'aider. Elle a fait quand même beaucoup d'années de piano, Donc elle a été chanteuse, elle a son prix de conservatoire aussi en chant. Donc elle a jamais voulu en faire son métier, mais elle connaît ce monde-là et puis elle est musicienne, quoi. Donc ça m'aide quand même pas mal. Elle m'aide beaucoup dans l'apprentissage, etc. Quand j'en ai besoin, tout ce qui est récit, etc. C'est super parce que c'est très facile pour elle. Moi, ça m'aide beaucoup. Mais il y a beaucoup de travail à la table. Moi, je travaille beaucoup à la table en silence. Le par cœur, la traduction, les rythmes, etc. J'aime bien, je me fais une marmite de thé, je me mets à la table et j'apprends beaucoup comme ça.
Quand vous parlez de l'orchestre, dans quelle mesure les instruments sont aussi des inspirateurs pour le chanteur que vous êtes ?
Alors ça, c'est sûr. Moi, je m'en sers beaucoup de ça. C'est pour ça que j'adore les italiennes, parce que souvent, ça change beaucoup.
Les italiennes, il faut expliquer.
Pardon, les italiennes, ce sont les premières répétitions des chanteurs avec l'orchestre, et on n'est pas en scène. C'est-à-dire qu'on est en format concert, derrière notre pupitre. C'est un moment de musique, quoi, entre les chanteurs et l'orchestre. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on entend les textures. Quand on fait une prise de rôle, on entend vraiment là où on peut se consumer. Donc, il faut faire attention par rapport aux balances, donc c'est là où on entame des discussions avec les chefs. C'est une répétition très importante et moi j'aime beaucoup parce que justement on entend les couleurs, on entend les timbres, on entend et en fonction des compositeurs aussi on s'adapte. Je sais que moi Péléas, pour reprendre encore Péléas, c'est un rôle aussi qui m'a marqué. C'est vraiment une musique texturée à l'orchestre, c'est vraiment une musique orchestrale plus que chanter finalement. Nous, on intervient dans l'orchestre, je dirais. Donc là, on s'en sert beaucoup, ouais, surtout les instruments avant, etc. Donc on va chercher plus l'imitation des couleurs et des textures de l'orchestre.
Vous avez beaucoup parlé de Péléa. Cette langue française, on dit qu'elle est difficile, ouais, avec son manque d'accent tonique. Mmh. Comment est-ce que vous, vous la vivez? Parce que vous avez quand même une diction qui est assez remarquable.
Alors, c'est vrai que le français n'est pas du tout une langue facile à chanter. Mais personnellement, j'y pense pas trop. C'est-à-dire que quand j'ai du répertoire français à faire, je le parle beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de musique issue du répertoire français, enfin qui s'inscrit dans le répertoire français, pardon, qui doit d'abord être abordée dans la déclamation. Et en fait, la déclamation, c'est du chant. Donc moi, je me sers beaucoup de ça. Donc j'essaie au maximum de déclamer fort mon texte quand je chante en français. Et en fait, la musique s'inscrit dedans, assez facilement dedans. Parce que si on cherche, ce qui est intéressant dans la déclamation, c'est de le faire de façon caricaturale. Dans la longueur des voyelles, dans l'expression des consonnes, etc. Donc on trouve une musicalité assez franche, assez honnête. Et quand on met la musique dedans, on se dit « Ah mais merde, j'étais pas loin en fait !» C'est très musical de parler, déclamer. Et c'est là où je trouve beaucoup de ressources pour pas trop me prendre la tête avec le français. Parce que sinon, quand on est dans les zones de passage, effectivement, avec les « un », les « on », les « en », les fricatives, c'est quand même assez handicapant pour le son. Mais la déclamation m'aide beaucoup, moi.
De le parler, en fait, c'est peut-être...
Ouais, mais le déclamer, c'est vraiment en se prenant pour un orateur grec sur la place publique. Vraiment, ça m'aide beaucoup.
À l'atelier lyrique, vous allez donc en sortir, si je puis dire, en 2010. Ce sont des liens que vous allez garder très privilégiés avec l'Opéra de Paris. On est alors passé sous la direction de Nicolas Joël, ouais, qui va diriger l'Opéra de Paris de 2009 à 2014. C'est toujours Philippe Jordan. Vous aurez passé toutes ces années, ouais, avec Philippe Jordan, qui était directeur musical de 2009, ouais, à 2021. Je me rappelle très bien quand vous aviez chanté dans Le Roi Artus. Mm. C'était vraiment le début, un, ouais, rôle court, mais qui était merveilleux pour se faire,
ouais,
entendre.
Ouais, tout à fait.
Quels sont vos grands souvenirs de ces années-là où le plaisir scénique, le lien aux autres collègues, si on pense au roi Artus, ce n'était pas les plus près,
ouais,
des collègues.
Oui, Hampson, Alania, Koch, pas mal. C'était sympa. Puis c'est des expériences de vie aussi, effectivement. Plus que des expériences professionnelles, j'en retire des expériences de vie parce que je m'en suis servi aussi dans mon apprentissage pour voir comment il travaille, Roberto Alagna. Comment ça se passe quand c'est lui qui arrive sur scène, ses relations avec le metteur en scène, ses collègues, qui il est en fait en tant qu'artiste. C'est ça que j'avais envie de vivre. Et puis, donc il y a eu Le Roi Artus, effectivement, qui était une partition assez méconnue, hein. Très, très belle. Magnifique. En plus, Philippe Jordan, ça lui va très bien, ce répertoire. Donc, c'était vraiment chouette. C'est vrai que Philippe m'a suivi mes premiers pas, quoi. Bébé chanteur. Et puis, on s'est retrouvé là en 2019, 2020, à Vienne pour Don Giovanni avec Barikowski. Ça, c'était notre dernier truc ensemble. Donc, c'est rigolo. Je pense qu'il m'a vu grandir, m'a vu évoluer. On a parlé du répertoire. On a fait aussi un Don Giovanni à Garnier avec Ivo Van Hove. Donc, ça, c'est des expériences, des tranches de vie professionnelle aussi, hein. Il y a eu comme expérience mon premier Narabot dans Salomé aussi. Il y a eu Walter aussi dans Tannhäuser à Bastille. C'est un rôle où on peut se faire entendre. Donc, faut pas faire n'importe quoi parce que c'est à la fois, c'est les murs de son école, mais ça devient les murs d'une vitrine professionnelle.
Il y avait eu Tristan aussi.
Ouais, effectivement. Le berger, ouais. J'avais oublié celui-là. Donc voilà, c'est un passage. Ça a été un tremplin, tout ça, dans des rôles Bah quand même un peu exposé pour un mec qui sort de l'atelier lyrique. Narabot, ça avait été quelque chose, parce que c'est quand même une musique qui n'est pas facile à apprendre quand on est jeune chanteur, quand on n'a pas l'habitude du répertoire. Voilà, et c'est des expériences de vie aussi où on apprend son métier, parce que je me souviens, les musicales avec Pinka Steinberg, c'était quelque chose, hein, c'est pas un mec facile, hein. Donc voilà, il faut passer à travers tout ça, parce que on a des vieux routiers qui ont fait du Strauss pendant 30 ans, et nous on débarque avec notre petite voix de ténor lyrique, il faut enchanter à la Bastille, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, où est-ce que je vais ? Et en même temps on se sent bien, et en même temps on a un peu peur, et donc voilà.
Vous avez été découragé à des moments ? Un doute qui prendrait
non,
plus
pas
de
quand
place
j'étais
que
jeune.
Ça ?
Je commence à parfois à me décourager maintenant, parce qu'une prod se passe pas bien, ou parce que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas à la maison. Non, j'avais les crocs, quoi. Je me souviens, j'avais peur de rien.
Quand vous dites j'avais les crocs, c'est aussi, ça fait partie du métier, mais c'est l'idée de la concurrence, quoi.
Ouais. Ben, on s'en rend compte, hein, quand on est à l'atelier lyrique, quand on est dans des institutions comme ça, il y a de la compète quand même. Moi, j'étais plutôt dans une promo sympa avec des Français. Puis en plus, il y avait Aude Extremo, il y avait Julie Matevet. Donc on sortait tous les trois d'Opéra Bastide. On s'est retrouvés tous les trois là, la même promo. J'ai eu Alexandre Duhamel, donc on a sympathisé à ce moment-là avec Alex. Pas mal de Frenchie pour cette promo, ce qui était assez rare apparemment. Donc c'était plutôt sympa, on a créé une bonne ambiance de travail, on se tirait pas dans les pattes, mais je sentais quand même qu'il y avait ça, ça existait. Et après j'ai senti aussi sur les plateaux que bah il y a de la compète dans ce métier, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, peu d'élus.
Vous êtes compétiteur ?
Je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas être compétiteur, moi. Pas dans le sens où si je gagne, c'est en écrasant l'autre. Si je gagne, c'est parce que bah j'ai été meilleur ou parce que bah j'étais là au bon moment, au bon endroit. Mais j'ai pas l'esprit de compétition. Je dirais que j'ai de l'ambition, mais je suis pas carriériste du tout. Pas du tout. Il m'est arrivé de chanter dans des très beaux endroits déjà. Et en fait, je pourrais me dire ça suffit, quoi. Parce qu'en fait, j'imaginais pas du tout ça. Enfin, quand j'étais à l'Opéra de Paris, moi je voulais commencer ma carrière. Je me souviens, j'ai chanté partout, quoi. J'ai chanté à Toulon, à Saint-Étienne, à Marseille, à Nantes. J'allais partout. J'avais
Nice.
Envie à Nice. C'était mon premier truc. J'ai chanté au Corrigi d'Orange. Enfin, je chantais en France, quoi. Après, sont arrivées des étapes, grâce notamment effectivement à Tamino à Aix. Mais je m'en foutais d'aller chanter au Met, d'aller chanter à la Scala, d'aller chanter à Covent Garden. Enfin, c'était pas du tout des objectifs. Et ça l'est toujours pas, en fait.
Oui, ça l'est pas devenu.
Non. Alors, je suis content de l'avoir fait. La vie et mon métier m'ont permis d'aller dans des endroits super. Mais j'aurais jamais été prêt à vendre père et mère pour aller chanter au Met, parce que ça doit être génial de chanter au Met. Bon, je sais pas trop comment ça peut être perçu par les gens de dire ça, mais vraiment, j'ai jamais eu... Parce que c'est plus facile, les gens vont se dire, c'est peut-être plus facile de le dire ça quand on l'a vécu. Mais vraiment, j'ai jamais cherché ça.
Quand vous passez des concours, Béziers, Marmande et puis Reine-Élisabeth en 2011, est-ce que ça aide à dessiner ce répertoire des 10 premières années ?
Bien sûr, parce que j'ai fait des erreurs dans ces concours. Par manque d'expérience, par insouciance, par... C'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, où la notion de plaisir intervient en se disant, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai envie de chanter cet air, j'ai envie de chanter cet air. Mais quand on est dans un objectif pré-professionnel où on se fait entendre pour être engagé, quand on fait des concours de cette ampleur, eh ben il faut faire des choix stratégiques. Ça m'a appris ça aussi, de savoir bah non, tu peux pas chanter encore ça, tu te mets en danger.
Alors stratégiquement, est-ce que c'est aussi avec Monique Baudouin justement que vous allez construire les choses et avec votre professeur Lionel Sarrazin ?
Monique Baudouin a été super parce qu'elle m'a repéré à Béziers, c'est un concours que j'avais gagné. Elle était dans le jury et à ce moment-là, elle m'a proposé de travailler pour moi. Je la remercie pour ça, parce que ça a été un travail de longue haleine, et puis c'est pas facile de présenter quelqu'un comme ça, un jeune ténor que personne connaît. Bon, j'avais mon CV de l'atelier lyrique, mais c'est toujours un plus, effectivement, mais j'ai fait beaucoup de petites choses un peu partout, et puis des choses un peu plus importantes un peu partout, et puis après, voilà, on franchit des étapes comme ça, mais on y a été... lentement, des Cassio, des Gaston et des Borsa, Chevalier de la Force, tous ces rôles-là, je les ai faits en France beaucoup, au départ.
Chevalier de la Force, ça c'est... J'imagine que c'est quand même une expérience qui est importante, pas que Borsa, Noricoletto, ça ne soit pas,
ouais.
Mais le Chevalier de la Force, c'est d'abord c'est le répertoire français,
ouais,
c'est le texte de Bernanos qui est magnifique.
Ouais, puis de toute façon, le dialogue des Carmélites, c'est une expérience musicale à part, comme peut l'être un Péléas, comme peut l'être un Wagner, comme peut l'être un Strauss, quand même des univers vraiment à part. Et c'est sûr qu'on sort pas indemne de dialogue des Carmélites, même si le Chevalier c'est pas long, il y a deux scènes, mais ce duo il est quand même très 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 prenant. En plus j'ai eu des super interprètes, donc j'ai eu des très belles prods des dialogues, vraiment.
Alors quand on parle de rôles qui ont été peut-être un peu comme ça des jalons, le Chevalier de la Force, ça c'est 2013, un rôle assez court, il y a Tamino qui va arriver en 2014, c'est le Festival d'Aix-en-Provence, une mise en scène de Simon McBurney,
ouais.
Très grand metteur en scène, qui là aussi marque,
immense metteur en scène.
Marque ouais. Évidemment le comédien que vous devenez.
En fait, je me demande si je n'aimerais pas devenir comédien. Ou avoir des expériences théâtrales, je sais pas si j'en ai les capacités en fait, c'est ça qui est chouette aussi, parce que je suis pas du tout comédien, hein. J'ai jamais appris ça. Mais c'est vrai que quand j'ai des metteurs en scène qui me révèlent des aspects comiques, ça me passionne. Bon, on verra. Mais j'ai toujours besoin du chant malgré tout, parce que voilà, j'en ai besoin, c'est comme ça.
Et le rôle de Tamino que vous avez porté pendant longtemps, auquel vous avez décidé de dire adieu, ce qui
ouais.
est une grande page. On a souvent dit que vous étiez vraiment un ténor mozartien. Est-ce que c'est une étiquette qui vous va, qui vous enferme? Et en quoi, oui, cette ligne vocale-là vous est, semble-t-il, pour nous, si naturelle, alors que vous disiez que c'était pas naturel?
Non, c'est pas naturel du tout. Et moi, je me considère pas comme un ténor mozartien du tout. Je me considère comme un ténor de passage sur la planète. Non, mais vraiment. Après, c'est des étiquettes qu'on colle parce qu'on ressent quelque chose ou parce que le métier, les gens qui critiquent, les gens du métier, les directeurs...
Ouais, il peut y avoir des timbres aussi.
Ouais, évidemment. Mais je me suis jamais considéré comme un ténor mozartien. J'ai toujours fait un peu à l'instinct et de ce que je ressens quand je chante cette musique. Voilà.
Et alors, vous ressentez quoi?
Les premières sensations, c'est pas facile. C'est pas facile de chanter Mozart. Tamino.
Don Ottavio.
Don Ottavio, je l'ai fait beaucoup. C'est pas facile à chanter. C'est un rôle ingrat. Parce que c'est un rôle dramatiquement qui paye pas. On sait jamais trop quoi en faire et c'est pas facile du tout à chanter. Les airs sont pas faciles. Je l'ai fait beaucoup. C'est une santé vocale. C'est une santé mentale, parce que quand on rentre sur scène avec mes moyens vocaux qui ont évolué, il faut pas se tromper, quoi. Donc c'est...
Faut pas se tromper de quoi? De justement.
Bah, il faut pas sortir des gonds, ouais. Il faut pas sortir de la ligne, il faut pas trop en faire, mais pas dans le pas trop en faire, il faut pas non plus sous-chanter parce que ça peut être dangereux pour la voix, parce que c'est pas une cure de jouvence de chanter Mozart à côté de ses pompes, du tout. Donc, quand la voix évolue avec les années, surtout qu'on a une tendance quand même à réinitialiser un peu, si je puis dire, la musique de Mozart avec certaines qualités vocales aujourd'hui, avec certaines tendances de nuances, avec certaines qualités de timbre d'orchestre, avec des diapasons, avec tout ça. Donc, comment on se situe là-dedans avec sa voix? Sous-chanter, c'est jamais très bon. Sur-chanter, c'est jamais très bon. Donc, l'équilibre, le plus dur dans Mozart, c'est l'équilibre.
France Musique, les grands entretiens de Stanislas de Barbeyrac.
Et ça, ça va être aussi, donc, c'est les saisons 13-14, les premiers moments où vous allez passer nos frontières, où la carrière devient internationale.
Ouais, c'est vrai. C'était une année dense, l'année 2014. Il m'est arrivé plein de trucs. Riche d'enseignements aussi, parce que j'ai une petite crise vocale due à un virus que j'avais chopé, qui m'avait fait arrêter justement Tristan. Je savais pas ce que j'avais. Du jour au lendemain, je chante très bien, puis j'arrive en répète, j'ai plus de voix. Je sais plus ce qui m'arrive. Pendant 8 semaines, le doute. C'était l'année des victoires de la musique, donc tout allait bien. Et je devais
vous
faire...
Vous avez été sacré artiste lyrique.
Voilà. Révélation,
révélation lyrique,
je sais pas,
ouais.
Comment ça s'appelle. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que j'ai.
Et là, le monde
s'arrête.
Dingue.
Bah, ça s'arrête, quoi. Je rentre chez moi. L'Opéra de Paris, très sympa. Bah, c'est pas grave. On va trouver quelqu'un pour la deuxième. Après la troisième, bon, on va trouver quelqu'un. La quatrième, ça va toujours pas. Bon, bah, reste à Paris, on va trouver quelqu'un. Et au bout d'un moment, j'appelle mon agent et je dis, bon, écoutez, moi, je rentre chez moi. Je sais pas ce que j'ai plus de voix. C'est fini. Je rentre chez moi. Je m'assois sur les marches de mon perron avec ma femme et je cherche du boulot sur Internet, une formation à la NPE, quoi. J'en étais là. En me disant, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui m'arrive, quoi. Je comprends pas. Je répétais mon tamino, tout allait bien et le lendemain, j'ai plus de voix. Rien.
C'est-à-dire sans douleur.
Rien. Je parle comme ça et quand je chante, au bout d'un moment, ça s'arrête. Je n'y arrive pas. Donc je sens que c'est mécanique, mais je sais pas ce qui se passe. Je monte mes cordes à tout Paris, j'ai rien sur les cordes. On me dit ça doit être dans ta tête, je vais voir un psy. J'avais jamais vu un psy de ma vie, ça revient pas. Je vais voir mon prof, il me dit je sais pas ce que t'as. Voilà quoi, le doute, bon ça arrive. Et en fait, c'était l'année 2014, après les victoires, j'étais en train de faire Tristan à Paris et je devais faire 10 dates de Tamino à Nantes-Angers Opéra. Et Aix, c'était un peu le deal, bon bah c'est cool, il a jamais chanté Tamino, mais comme il le fait juste avant 10 fois. On est rassuré, il l'aura dans les pattes et bon voilà, il appréhendra le rôle avec la pression que représente de faire un truc à Aix, etc. Sauf que j'annule évidemment Nantes-Angers Opéra. Donc Aix commence un peu à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et Alain Perroux à l'époque, attends et il me dit écoute, on te fait confiance. Chapeau. Donc je fais des tests, je vais à l'hôpital, je fais un IRM, un scanner, je me dis j'ai une tumeur au cerveau, qu'est-ce qui peut m'arriver, il y a un truc neurologique qui se passe pas, je sais tout quoi. Et mes cordes vont bien, il y a rien, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait il y a un médecin qui se dit mais vous avez fait une prise de sang? Eh ben non, j'ai pas fait de prise de sang. Et donc je fais une prise de sang et je vois qu'en fait j'ai chopé un virus et que quand je vais faire mon IRM, ce virus provoque en fait un œdème général du corps. Donc on voit que j'ai des courbatures partout, je fais un scanner général, j'ai jamais fait ça de ma vie et je sors de là et je suis paniqué et la nana me dit bon monsieur Barberac, il y a rien de grave mais je fais oula, qu'est-ce que j'ai? Enfin voilà, je suis passé par toutes ces étapes et en fait un jour je prends mon bain ici à Barsac et j'ai attendu pour voir si mon corps combattait ce virus ou pas. Et puis un jour, je fais ma voix par hasard dans mon bain et ma voix est ressortie comme elle était du jour au lendemain. Et en fait, comme j'avais un œdème général, c'était bien mécanique comme je le ressentais. Je pouvais pas basculer mon larynx. Et au bout d'un moment, ça bloquait parce que j'étais enflammé partout. Mais même des courbatures, on voyait tout, quoi. J'avais une inflammation générale à l'intérieur de moi. Et c'est parti. Et du jour au lendemain... j'ai retrouvé ma voix comme je l'avais perdue à Paris 8 semaines avant. Donc, sacré bout de vie.
Ouais, et c'est cette année-là que vous allez à Sao Paulo.
Ouais, juste après. Et à Aix, j'arrive en disant, les gars, j'ai jamais chanté Tamino et il va me falloir une semaine pour remettre ma voix en route. Et Alain Perroux me dit, ok, t'inquiète pas, le chef est au courant. Et c'est passé ce qui s'est passé. Donc, j'ai été précautionneux pendant une première semaine de répétition. Et puis après, ça a été quoi. Étape. C'est ce qu'on appelle une étape dans la vie d'un chanteur.
Oh.
Stanislas de Barberac et Marie Eriksmoen avec l'orchestre baroque de Fribourg dirigé par Pablo Heras Casado à Aix-en-Provence en 2014 dans la flûte enchantée de Mozart. Ainsi se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec le ténor français, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.